Il descend au milieu de nous. Et il a aussi quelque chose à dire.
Amen.
Il répond à nos louanges. Et voici ce que le Seigneur nous dit ce matin. Je suis le bon berger et je veille sur chacune de mes brebis. Je connais tous les besoins de chacun de vous. Alors, le Seigneur m'a montré qu'il y avait 4 sortes de besoins qu'il va pourvoir, auxquels il va pourvoir ici, pendant cette journée. Premièrement, il y a des brebis, des personnes qui sont affamées, manquant de nourriture. Je vais les conduire dans de verts pâturages, afin de les nourrir de cette nourriture rafraîchissante dont elles ont besoin. Elles crient famine, et le Seigneur dit, je vais les nourrir. Deuxièmement, il y a des personnes ici, le Seigneur le sait, qui sont lassées, fatiguées du chemin parcouru jusqu'à ce jour. Et le Seigneur dit, je vais les conduire près de mon torrent d'eau vive, afin de les rafraîchir et les renouveler dans leur courage. Alléluia, Seigneur, alléluia. Combien nous en avons besoin tous. Troisièmement, il y a une troisième catégorie de personnes que le Seigneur va toucher au milieu de nous. Ce sont des personnes blessées. Et là, le Seigneur les prend dans ses bras avec beaucoup de tendresse. Beaucoup de tendresse. Et le Seigneur dit, je vais les soigner. Puis, je vais cheminer avec elles en les prenant sur mes épaules. Et je les porterai, dit le Seigneur, ces brebis-là qui sont blessées, jusqu'à ce qu'elles soient à nouveau capables de marcher. Quatrième sorte de personnes, des personnes qui sont tombées dans le piège du doute, du découragement, à tel point qu'elles ne voient plus la main du Seigneur dans leur vie. Alors le Seigneur aujourd'hui va comme les appeler par leur nom et les prendre par la main et leur faire ressentir sa présence parce qu'il est là. Je vais, dit le Seigneur, les réconforter. Je vais les encourager. Je vais les consoler de façon particulière. Alors, si nous sommes dans cet état-là, laissons-nous consoler par le bon berger. Il est là pour panser les blessures, pour relever celui qui est fatigué. Et voici une parole prophétique de la part du Seigneur pour nous tous. Mon peuple, mes enfants, dit le Seigneur, tournez-vous vers moi. Je suis votre Seigneur. Et je chemine avec vous. Ne regardez pas aux circonstances qui vous environnent, à ce monde de ténèbres. Je voudrais, mon peuple, faire grandir votre confiance en moi, dit le Seigneur. Voici, je reviens bientôt sur les nuées du ciel. Gardez les yeux fixés sur moi. Guidés par ma main puissante, je vous conduirai jusque dans ma gloire céleste, là où les eaux ne tarissent jamais, là où l'herbe verte ne flétrit jamais, là où tout est lumière, où tout brille, où tout est pur. Je vous conduirai là où la lumière et la clarté brillent jour et nuit, où chaque chose a une valeur infinie, éternelle, là où plus rien ne perd de sa valeur. Là où tout chante la gloire éternelle de celui qui vous a tant aimé et de celui qui règne au siècle des siècles. Mon peuple, continue d'avancer. Levez vos têtes, car votre rédemption approche à grands pas. Votre roi revient sur les nuées du ciel. Les temps sont courts. Ne laissez rien vous tiédir ou tiédir votre zèle à mon service. Ne laissez rien vous séparer de moi, ni les soucis de la vie, ni vos difficultés, ni vos problèmes, ni vos épreuves. Je suis avec vous à chaque instant de votre vie, et ma main puissante vous conduira jusque dans ma gloire. Courage! courage, mon peuple, dit le Seigneur. Alléluia! Alléluia! Louange à ton nom! Loué sois-tu!
Magnifique est le Seigneur. Chantons ce petit chœur qu'on connaît tous. Magnifique est le Seigneur.
Magnifique est le Seigneur. Le Seigneur tout mon cœur pour chanter Dieu. Pour chanter Dieu.
Magnifique est le puissance, honneur et gloire.
Que puissance, honneur et gloire.
Reviennons de
trois fois saint.
Aujourd'hui et à jamais.
Seigneur comme toi, cheminant avec nous, jour après jour, instant après instant. Oh, merci Seigneur d'être avec nous ce matin. Oh Seigneur, nous nous courbons devant toi. Nous nous courbons devant ta majesté grandiose, glorieuse, élevée au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Devant le nom de Jésus, tout fléchit. Tous les genoux fléchissent devant ce nom-là. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Celui qui est plus grand que tout chemine avec nous. Qu'avons-nous à craindre, peuple de Dieu? Qu'avons-nous à craindre? Puisqu'il chemine avec nous. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur.
C'est lui le maître, et nous sommes ses serviteurs. Pour introduire le témoignage très encourageant que je vais vous donner, voici les paroles que le Seigneur m'a données avec ce témoignage-là, parce qu'il correspond bien à ce que je vais vous raconter. Est très édifiant, très encourageant. Et ça s'est passé ici au Canada, ici au Québec. Le Seigneur donnait ces mots. Mon regard est constamment sur chacun de vous. J'ai devant moi chacune de vos circonstances. Rien n'échappe à mon regard. Ne vous affolez pas, ne paniquez pas. Lorsque vos circonstances deviennent ingérables, voire insupportable. Si je suis le Dieu de Job, je suis aussi votre Dieu. Amen. Comme pour lui, j'ai compté ses pas. Dieu a compté les pas de Job, il est dit dans le livre de Job. Et je compte encore vos pas aujourd'hui, dit le Seigneur. N'est-ce pas encourageant? Et ce passage du psaume 139, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Et je vais vous raconter le témoignage que nous avons rencontré cet homme à Gatineau il y a quelques temps en arrière. Et il s'agissait d'un homme tout à fait spécial que le Seigneur a amené à notre réunion, que nous n'avions jamais rencontré. Et vous allez voir qui est cet homme d'abord, son témoignage qui est fabuleux. Et ensuite, ce que le Seigneur a fait à notre réunion quand il est arrivé. Il s'agit d'un ex-bandit connu ici au Québec qui avait fait une quinzaine d'années de prison et qui avait été relâché pour bonne conduite parce qu'il s'est converti en prison. Il a trouvé le Seigneur en prison. Alors, c'est merveilleux ce qui s'est passé avec cet homme. Donc, il est sorti de prison suite à sa conversion et à bonne conduite. Et il est rentré chez lui, il était chez un ami. Et il avait garé sa voiture devant la maison. Et il est rentré, ils étaient tous les deux rentrés avec son ami. Et d'un seul coup, il faut que je dise une chose, c'est que la police, une parenthèse, la police n'était pas au courant de ce qu'il avait été relâché pour bonne conduite. Donc, il l'avait encore à l'œil, cet homme-là. Alors, ce qui s'est passé, c'est que il était donc chez son ami, chrétien aussi, son ami. Et d'un seul coup, il se dit, j'ai pas bien garé ma voiture, je vais ressortir pour bien la garer. Il sort, il veut sortir, il veut prendre la poignée de la porte et il y a une voix qui lui dit « Non, ne sors pas !» C'est la première fois qu'il entendait la voix de Dieu. C'est quand même extraordinaire. « Non, ne sors pas !» Alors bon, il s'est dit « C'est quoi cette voix ?» Il était jeune converti, là. Et il connaissait pas, il n'avait pas une grande expérience chrétienne derrière lui. Alors il en a parlé un peu à son ami, là, puis il s'est dit, bon, ben quand même, je vais quand même aller garer ma voiture. Il se remet une deuxième fois à vouloir ouvrir la porte de sortie de la maison. La même voix qui dit, je t'ai dit de ne pas sortir, avec autorité, mais à autorité. Grande autorité, la voix du Seigneur. Alors bon, il dit, bon, ben, il était assez secoué quand même. Alors son ami chrétien lui a dit, ben donne-moi les clés, je vais sortir, je vais aller la garer moi. Et l'ami sort, et au moment où il va dans la voiture, la police le mitraille. Il lui tire dessus à l'ami chrétien, croyant que c'était lui, que c'était l'ex-bandit. Il est blessé, mais rassurez-vous, sa vie n'a pas été en danger, le Seigneur a mis sa main là. Et c'était la première expérience de notre ex-bandit d'entendre la voix du Seigneur. Et je vous assure que ça l'a marqué, il est... C'est sûr, et ça nous marquerait tous, je pense, une telle expérience. Alors voilà, cet homme-là était à Gatineau là-bas, il ne faisait pas partie de l'église dans laquelle nous nous trouvions pour faire des réunions. Et le Seigneur avait agi de multiples façons, il avait guéri une dame du cancer des os par la parole de connaissance et tout ça. Et... Donc, notre monsieur se trouvait dans son salon, chez lui à la maison. Et cette même voix qui lui avait dit, ne sors pas, avec autorité, c'est cette même voix qui s'adresse à lui. Mais avant, il faut que je vous dise dans quel état cet homme se trouvait. Cet homme se sentait très mal dans son corps. Il avait d'importantes pertes de sang qui l'affaiblissaient de jour en jour. Et les médecins ne savaient plus quoi faire. Ils ne savaient pas d'où venait cette hémorragie. Et ils n'arrivaient pas à l'arrêter non plus. Donc, il allait au moins à celle, il me semble, si je me rappelle bien, 18 fois par jour. Donc, probablement qu'il avait vraiment un sérieux problème aux intestins, de toute manière. Et puis, chaque fois qu'il allait à Celle, c'était une hémorragie de sang. Et puis, il se vidait de son sang. Et il nous a dit, en arrivant, eh ben, il se sentait partir. Il se sentait mourir. C'était très grave, sa situation. Depuis un an, ça s'aggravait de jour en jour. Alors, on lui avait fait un tas d'examens sans pouvoir y remédier. Alors, cet homme-là, il est donc dans son salon, dans cette condition-là, dans une faiblesse extrême. Mais, vous allez voir, le Seigneur n'arrive jamais en retard. Il connaît toutes nos circonstances et dans sa grâce, il intervient juste au bon moment. Nous, on estime parfois que c'est peut-être dernière limite, mais lui... Il sait que ce n'est pas dernière limite. Pour lui, le mot difficile n'existe pas. Le mot impossible n'existe pas. N'oublions pas, c'est le Dieu Tout-Puissant. Alors, lui, il entend la voix du Seigneur dans son salon lui dire « Va à l'église de tel et tel pasteur. »
Qu'il connaissait
pour parce qu'il s'est rencontré dans la rue, comme ça, il fraternisait un peu avec ce pasteur-là. Mais il ne faisait pas partie de son église. Et il ne savait, il savait pas qu'on était là non plus. Il ne nous connaissait pas du tout. Et donc, le Seigneur lui dit, va à telle église. Et puis, bon, comme il avait à la réunion le soir, à la réunion du soir, comme il avait appris à obéir quand Dieu lui parlait, et ça l'avait assez marqué, l'histoire de la porte, qui s'est dit, j'ai bien le temps d'obéir. Alors, il est arrivé. Et puis, au moment où il entre, il s'assied. Je donne une parole de connaissance, disant qu'il y a quelqu'un ici qui fait de très fortes hémorragies. Depuis un an, les médecins n'arrivent pas à contrôler ça. Le Seigneur pose sa main sur toi. Il venait d'arriver. Le Seigneur lui a montré pourquoi il était venu là, tout de suite, hein. Ah, il a dit, c'est moi ça, il s'est dit, c'est moi. Bon, il a assisté à la réunion, il a écouté tout le reste, tout ce qui s'est dit. Et puis, après la réunion, il est allé, juste avant la réunion, il faut que je dise encore, il est allé aux toilettes, son cas était déjà tellement grave que c'était plus des selles qui sortaient, c'était du sang carrément, que du sang. Donc, son cas était extrêmement grave, là. Il allait mourir sous peu, là. Hein. Et là, eh ben, le Seigneur l'a touché, l'a guéri complètement. Amen. Complètement guéri. Amen. Et cet homme, il a pu reprendre sa vie. Et vous savez, c'est extraordinaire, quand même, la reconstruction de cet homme, non seulement la guérison, mais cet homme-là, en sortant de prison, vous savez avec qui il a pu se marier. Le Seigneur lui a donné une bonne épouse. Et on ne penserait pas qu'un ex-bandit puisse se marier avec une dame comme ça. C'est la secrétaire du gouverneur de l'Ontario, sa femme. L'ex-bandit, voyez comme le Seigneur peut reconstruire une vie. C'est quand même extraordinaire. La puissance de Dieu. Nous la limitons beaucoup, beaucoup trop. Il est le Tout-Puissant. Amen. Et là, je donnerai juste un deuxième témoignage qui n'est pas moins fort. Nous étions en Afrique, au Burkina Faso, pour un séminaire pour les pasteurs. Et pendant ce séminaire, le Seigneur m'avait donné plusieurs paroles de connaissance prophétiques pour les pasteurs aussi. Et entre autres, il m'a donné cette parole qui a été comme une véritable bombe dans ce séminaire et qui nous a ouvert tout le pays par la suite. Le Seigneur a dit, il y a ici un pasteur qui a laissé sa femme très malade à la maison. Je vais la guérir. Là où elle se trouve. Mais cette femme, elle était non seulement très malade, mais elle était mourante. sur son lit de mort depuis 10 jours, renvoyé par l'hôpital de Ouagadougou, la capitale du Burkina, pour mourir. Ils ont dit, laissez-la aller mourir. Elle était dans l'agonie. Et puis, au moment où cette parole au séminaire des pasteurs a été dite, sa femme a été touchée à la maison, à des kilomètres de là. La puissance de Dieu, elle était comme paralysée sur son lit, un squelettique, grise, presque aveugle, ne pouvant plus marcher. Enfin, c'était... Elle agonisait. La vraie agonie de la mort. Et là, la puissance de Dieu est venue comme un faisceau lumineux dans sa maison africaine. Elle a traversé son organisme de la tête aux pieds comme un courant électrique. Elle a été remplie d'une force incroyable, elle qui ne pouvait pas marcher. Elle a sauté du lit, elle a couru dehors. N'oubliez pas, c'est la femme d'un pasteur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Toute seule dans sa maison. Gloire à Dieu, alléluia. Merci Seigneur. Et cette femme est venue 3 jours après à la réunion de dames que je faisais. Puis elle était assise devant comme ça. Et moi, je ne savais pas. Je ne connaissais pas son histoire. Moi, j'avais dit cette parole au séminaire, mais je n'en connaissais pas la suite. Et là, après mon message aux dames, après les témoignages des unes des autres de leur guérison, de ce qu'elles avaient reçu, je vois cette dame mais briller au premier rang, briller de la gloire de Dieu. Elle était noire, mais moi, je la voyais presque blanche. Et puis, j'ai dit, vous, madame, vous vivez quelque chose avec le Seigneur, venez dire ce qui se passe. Elle est venue, elle a dit, c'est moi. Qui était mourante il y a 3 jours, quand vous avez dit telle et telle parole. Et puis elle a raconté toute son histoire. Et cette dame a été parfaitement guérie. Et puis le Seigneur a utilisé ce miracle-là pour nous ouvrir le Burkina Faso un peu plus, parce que 3 mois après, on était réinvités là-bas pour parler cette fois à plus de 2000 pasteurs. Et cette dame a rendu témoignage devant tous les pasteurs. Son mari était là aussi pour confirmer et tout. Et le Seigneur a été vraiment glorifié. Il y a même eu d'autres miracles qui ont suivi celui-là. Alléluia, nous voulons te louer, Seigneur. Te bénir.
Merci, Seigneur.
Tu es le Tout-Puissant.
Alléluia. Merci.
Et nous sommes à toi.
Alléluia,
et tu ne te trompes pas.
Merci, Seigneur.
Nous pouvons te faire confiance, Seigneur.
Gloire.
Une confiance absolue. Tu ne fais pas d'erreur et tu n'arrives jamais en retard. Nous voulons te bénir. Bénissons le Seigneur juste 2 secondes.
Alléluia.
Seigneur, merci.
Oui, merci, Seigneur.
D'être là, tu chemines avec nous.
Gloire.
Et aujourd'hui, tu vas aussi toucher des personnes. Merci, Seigneur. Tu es là pour faire du bien à ton peuple. Et maintenant, tu vas nous parler au travers du message. Et tu vas nous instruire dans tes voies. Et tu vas te faire connaître davantage à nous encore. Nous voulons te connaître toujours mieux, toujours plus, Seigneur. Et nous voulons te dire que nous t'aimons. Amen.
Amen. Merci, Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ta grande compassion. Nul autre que toi ne peut faire de telles choses, parce que tu es la résurrection et la vie, et que tout pouvoir t'a été donné dans les cieux et sur la terre. Seigneur, nos cœurs sont attachés à toi. Nous t'aimons de tout notre cœur. Toi, notre Rédempteur, tu nous as rachetés par ton sang précieux, pour que nous soyons ton peuple, pour te louer et t'exalter de tout notre cœur. Merci pour ce que tu as fait, et merci pour ce que tu veux encore faire au milieu de nous aujourd'hui. Seigneur, tu n'es pas limité. Là où les cœurs sont ouverts et obéissants à ta grâce et à ta parole, tu es toujours disponible pour agir. Bénis maintenant ta parole, afin qu'elle porte du fruit dans notre vie, qu'elle puisse vraiment nous éclairer, nous sonder, et nous donner de mieux comprendre tout ce que tu es pour nous, et tout ce que tu attends de nous.
Amen.
Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Merci Seigneur. Amen. Au nom de Jésus.
C'est bon.
Le Seigneur est là et il veut encore se manifester au milieu de nous. Restons toujours bien concentrés sur lui. Nous attendons à lui et à lui seul. Il est le Dieu de l'impossible. Que son nom soit béni. Il est le Dieu aussi qui nous a laissé sa parole. Et plus que jamais, nous avons besoin de cette parole aujourd'hui, n'est-ce pas vrai? Nous vivons des situations tragiques, catastrophiques dans ce monde. Mais on écoutait à la radio en France, Lévic disait que ce n'était que le commencement de grandes catastrophes. Il y en aura encore beaucoup plus et beaucoup plus intenses qui vont se passer maintenant à cause du réchauffement de la planète qui bouscule, qui perturbe toute la planète et aussi avec d'autres situations. Mais le Seigneur, au travers de tout cela, veut nous parler. Ce sont vraiment les prophéties qui s'accomplissent. Si le monde ne comprend pas cela, malheureusement, avec tout ce qui se passe, je lisais encore dans l'Apocalypse l'autre jour, quand les fléaux se manifestaient, il est dit que les gens blasphémaient Dieu. Et ils ne se repentirent point de leurs mauvaises œuvres. On aurait pu penser qu'avec tous ces cataclysmes sur la terre, ces événements extraordinaires qui bouleversent toute une société, ils viendraient au Seigneur dans le brisement. Mais c'est le contraire. Les cœurs s'endurcissent encore plus. Et le peuple de Dieu doit avoir une attitude qui correspond à des personnes qui réalisent que leur patrie n'est pas de ce monde, mais que leur patrie est dans le ciel. Et à plusieurs reprises, en tout cas à deux reprises, la Bible nous dit que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Pour ceux qui vivent ici-bas, qui n'ont point d'espérance, c'est vraiment la fin de tout, n'est-ce pas vrai? Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'issue. Mais pour le chrétien, il y a un message. Malheureusement, il y a aussi des chrétiens qui ne vivent que pour la terre. Et ils sont troublés. Mais parce qu'ils n'ont pas la bonne attitude. Et c'est ce que je voudrais vous dire ce matin brièvement. Au travers de tous ces cataclysmes, Dieu attend de chacun d'entre nous, si nous voulons tenir ferme et aller jusqu'au bout avec le Seigneur, nous devons avoir cette attitude du pèlerin qui est en route pour la cité céleste. Et pour cela, nous avons besoin de réaliser que nous sommes des pèlerins. Et si parfois Dieu nous secoue un petit peu, c'est comme pour nous dire, mon enfant, tu es un étranger sur cette terre. Ne bâtis pas ta vie pour toujours ici-bas. Un jour, tout cela va être ébranlé. Et si tu as mis ta confiance dans ce monde, dans la sagesse de ce monde, tu seras ébranlé comme tout le monde. Mais je veux que ta foi ne soit pas sur la sagesse de ce monde, sur les biens de ce monde. Je veux que ta foi soit ancré dans le ciel. Je veux que tu saches que tu es un étranger sur cette terre. Et que tu es un pèlerin en route vers la cité céleste. Et voilà pourquoi Dieu permet toutes ces catastrophes, afin que nos cœurs, mes amis, ne soient pas attachés aux choses de cette terre. Comme la femme de Lot, n'est-ce pas vrai? Elle s'est retournée en arrière. Elle avait quitté Sodome et Gomorre. Mais Sodome et Gomorre étaient encore dans son cœur. Elle avait quitté le monde, mais le monde était encore en elle. Et nous aussi, nous devons faire attention. Avec ces événements qui arrivent, Dieu nous dit à chacun d'entre nous ici, « Mon enfant, ton pays n'est pas celui-ci ici. Tu as une patrie céleste. Et je te prépare pour cette patrie-là. Le ciel sera ébranlé. Les circonstances deviendront de plus en plus tragiques. Et je veux que ta foi soit fondée sur les vérités éternelles. Non pas sur les choses visibles, mais sur les choses invisibles qui demeurent éternellement. Alléluia.
Amen.
Et il est temps, mes amis, de réaliser que nous sommes un peuple en voyage. Gardons-nous donc de nous attarder comme la femme de Lot au bien de ce monde, aux richesses de ce monde, à la sagesse de ce monde. Il est dit que quand le déluge est arrivé, la parole de Dieu nous dit qu'ils ne se doutèrent de rien. Chacun continuait son travail. On se mariait, on se donnait en mariage, on plantait, on bâtissait. Tout le monde faisait son travail. Mais vous dites, mais comment ça se fait? On plante, on bâtit, on se marie et on marie ses enfants. Est-ce que c'est normal tout ça? Comment ça se fait que Dieu fait un reproche avec ces choses? Le reproche n'est pas dans ces choses-là, selon la parole. Le reproche est le fait que tous ces gens vivaient pour ces choses-là. Ils vivaient pour les choses de la terre. Et Dieu était complètement exclu de leurs pensées. On doit manger pour vivre, mais on ne doit pas vivre pour manger. Et c'est ce qui se passait avec Sodome et Gomorre et la société actuelle aujourd'hui. On doit manger pour vivre, c'est vrai, mais on ne doit pas vivre pour manger. Et c'est pourquoi Dieu nous secoue actuellement. Et cela se passe dans le monde entier, n'est-ce pas vrai?
C'est vrai.
Dans le monde entier, Dieu nous secoue. Il veut nous dire, ta cité, si tu es enfant de Dieu, ta cité est dans le ciel. Et il faut que tu te prépares pour cette cité céleste. Que rien ne t'arrête, que rien ne te décourage. Nous lisons dans l'épître de Pierre, dans la première épître de Pierre au chapitre 2, nous lisons ceci à partir du verset 9. Vous, au contraire, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avait obtenu miséricorde. Bien-aimé, voyez-vous comme l'apôtre Pierre exhorte. Bien-aimé, leur dit-il, je vous exhorte. Et Dieu fait la même chose ce matin au milieu de nous. Bien-aimé, je vous exhorte. Comme des étrangers et des voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Un autre passage, c'est dans Hébreux 11. Hébreux 11, 9 et 10. Hébreux 11, 9 et 10, voici ce que nous lisons. C'est par la foi qu'il vint s'établir, en parlant d'Abraham, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre, qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles ?
Étrangère.
Il était même dans la terre promise, et il considérait cette terre promise comme étant une terre étrangère. Quand nous lisons l'histoire d'Israël, nous les voyons continuellement en pèlerinage, comme pour dire, votre patrie n'est pas ici-bas. Mm-hmm. Et même lorsqu'ils étaient à Canaan, eh bien, Abraham se sentait mal à l'aise. Et il se disait, et il savait, et tous les autres patriarches avec lui avaient cette conviction que leur véritable patrie n'était pas ici-bas. Mm-hmm. Ce n'était pas Canaan. Ils étaient des étrangers ici-bas. Et ils devaient poursuivre leur route jusqu'à ce qu'ils voient un jour le Seigneur dans le ciel. Mm-hmm. Ensuite, au verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont morts, tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vues de loin, crues et saluées, reconnaissant qu'ils étaient, qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles ? Encore une fois, étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherche une patrie. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient partis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et dans Philippiens 3, 20, il est dit que notre cité à nous est dans le ciel. Notre cité à nous est dans le ciel. Nous lisons encore ce passage qui nous parle du ciel. Philippiens 3, 20. Ce sont des passages importants que nous devons bien lire maintenant. C'est le temps où il faut nous lire ces choses. Et voyez-vous le contexte de cette situation. Et voilà, c'est à partir du verset 17. Soyez tous mes imitateurs, Philippiens 3. Frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur
ventre.
Donc ils vivaient pour manger. Ils vivaient pour manger. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, voyez-vous. Dieu est complètement exclu. Qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Notre citoyenneté est dans les cieux. Nous sommes des citoyens du ciel. C'est des cieux d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Amen. Mm-hmm. Voyez-vous, ces trois versets-là ont un message pour nous. Et si je devais donner un titre à mon message, c'est celui-ci. Chrétien, n'oublie pas que tu es un pèlerin sur cette terre. N'oublie pas que tu es un pèlerin. Ta cité finale n'est pas ici-bas. Notre patrie est dans le ciel. Nous ne sommes que de passage ici. Et nos cœurs ne doivent pas s'attacher aux choses de ce monde, qui un jour disparaîtront. Un jour le feu va tomber sur cette terre.
Eh oui, c'est ça.
Et si ton cœur est attaché, comme avec la femme de Lot, tu périras également. Si tu ne vis que pour les choses de la terre, je le dis en pleurant, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre.
Mes amis, toutes ces situations actuelles, il y a un message prophétique pour toi et pour moi. C'est comme si Dieu voulait nous dire, c'est assez maintenant. Tu as assez pensé à toi-même qu'aux choses de la terre. Tu as mis le Seigneur de côté. Et tu veux encore qu'il te bénisse. Et tu pleures. Et tu gémis. Mais il te dit ce matin, il est temps que tu mettes les choses en premier dans ta vie spirituelle. Il est temps de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses te seront données par-dessus. Tous les autres arguments n'ont aucune valeur devant Dieu. Dieu nous secoue. Les uns et les autres.
Oui.
Et si nous ne comprenons pas, il nous secourra encore.
Oui.
Il nous secourra encore jusqu'à ce qu'on mette les priorités à notre place, à la bonne place. Mes amis, nous sommes des citoyens du ciel. Et j'ai noté ici, je n'aurai pas le temps d'entrer dans les détails, mais je vais vous donner la pensée d'une manière générale, et déjà nous aurons quelque chose de précis. J'ai noté ici les 7 bornes qui se trouvent sur le chemin du pèlerin. Le pèlerin avance, il lui faut des bornes, vous êtes d'accord avec moi? Et il y a 7 bornes que nous allons trouver au travers, c'est tout simple ce que je vais vous dire. Dans les 3 textes que nous avons lus, il y a chaque fois une pensée différente, vous avez vu? Chaque fois, il est parlé d'avoir une bonne conduite, il est parlé qu'on nous calomnie, il est parlé que notre cité est dans le ciel, d'où Jésus va revenir, transformer le corps de notre humiliation en corps glorieux. Voyez-vous, chaque fois, il y a une pensée. Et cette pensée, nous devons la discerner. Et ne pas dire, ah oui, bon, ben ça va, je suis pèlerin, je vais au ciel. Et c'est, non, c'est pas suffisant. Il y a un message avec. Il y a quelque chose que nous devons faire. Alors, quelle est la première borne? La première borne est celle-ci. Le pèlerin est un membre de la patrie céleste. Philippiens 3:20, notre cité est dans les cieux. Donc, le pèlerin est un membre de la patrie céleste. J'espère que vous l'êtes tous. Avant d'aller au ciel, il faut déjà que le ciel soit descendu dans votre cœur. Vous n'irez jamais au ciel si le ciel n'est pas là, dans ton cœur. Et comment le ciel est-il dans mon cœur? C'est quand on accepte Jésus comme son sauveur. Et qu'on est de nouveau. Amen. C'est par la naissance. Jésus a dit, en vérité, Jean chapitre 3, verset 3, en vérité, je vous le dis, si vous ne naissez de nouveau, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Voyez-vous, le ciel est là. Et comment il faut y entrer? Eh bien, il faut naître de nouveau.
Amen.
Et la naissance, la nouvelle naissance, c'est quoi? Les uns pensent c'est leur baptême quand ils sont petits. C'est un mensonge. Ce n'est pas cela, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance vient lorsqu'on réalise qu'on est pécheur et perdu. Et que, par nature, nous sommes morts dans nos fautes et dans nos péchés. Et l'homme naturel, étant mort dans ses fautes, n'a pas de communion avec Dieu qui est esprit. Si tu veux communier avec Dieu qui est esprit, il faut que son Esprit Saint vienne habiter en toi.
Amen.
Sinon, tu ne pourras jamais avoir de communion avec Dieu. Et comment? Il faut naître de nouveau. Un jour, on a demandé à un prédicateur qui prêchait souvent sur la nouvelle naissance, qui disait toujours qu'il fallait naître de nouveau. Je lui ai dit, mais pourquoi tu prêches toujours qu'il faut naître de nouveau? Et le prédicateur a répondu, parce qu'il faut que vous naissiez de nouveau.
Amen.
Mais pourquoi? Parce qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Et c'est qui dit cela? C'est Jésus. En vérité, Jean 3:3, n'est-ce pas? En vérité, amen, amen, il en est ainsi, cela veut dire que ça ne passera, vous, ce qu'il va dire, ce qu'il dit, s'accomplira. C'est la vérité. Si tu ne nais pas de nouveau, tu n'entreras pas au ciel. Et tu nais de nouveau, je sais pas comment, Nicodème, mais pourtant il a pas dit ça, Nicodème, qui était un chef des pharisiens, un docteur. Il aurait dû savoir tout ça, vous êtes d'accord avec moi? Et comment il a répondu? Il a dit, mais Seigneur, mais comment, est-ce que moi, c'est un vieil homme, est-ce que je dois redevenir un petit enfant pour... Il n'avait pas compris. Et pourtant, C'était un homme religieux qui enseignait la religion aux autres. Il y a beaucoup de gens religieux qui seront perdus. En enfer, il y a beaucoup de gens religieux, mes amis. Ne l'oubliez pas. Ta religion ne te sauve pas. Il faut naître de nouveau. C'est Jésus le Sauveur qui sauve. Et tu dois réaliser que tu es perdu. Parce qu'on ne peut pas être sauvé tant qu'on ne réalise pas qu'on est perdu et qu'on mérite l'enfer. C'est sérieux tout ça? Bien sûr que c'est sérieux. Voilà pourquoi Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, si tu ne nais de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Donc comment est-ce qu'on y entre? Par la repentance, par l'abandon de ses péchés, et en croyant que seul le sacrifice de Jésus peut pardonner nos péchés et nous réconcilier avec le Dieu trois fois saint. Amen.
Amen.
C'est la première borne. La première borne est là. Le pèlerin est un membre de la patrie céleste. Et son nom est écrit dans le livre de vie. Luc 10, 20. Vous savez, quand les disciples sont venus et qu'ils avaient chassé des démons, et ils étaient contents. Et les démons, ils ont dit, même les démons nous ont soumis, Seigneur. Et le Seigneur leur a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Dans le livre, dans les cieux, dans les cieux. Beaucoup de gens ont leur nom écrit sur le registre d'une église, mais jamais dans le livre de vie, dans le ciel. Ce qui importe, ce n'est pas que ton nom soit inscrit en lettres dorées sur un registre d'une église. Tu as peut-être même payé cher pour que ce soit doré. Mais là-haut, ça n'a aucune valeur. Ton nom est-il écrit dans le livre de vie, dans les cieux? Seuls ceux-là iront un jour dans cette patrie céleste. Si tu veux aller au ciel, il faut que le ciel soit déjà dans ton cœur.
C'est vrai.
Que tu sois né de nouveau et que tu le saches. Et que tu vives en conséquence. Allons un peu plus loin. Deuxième borne. Le pèlerin est un étranger sur cette terre. On l'a vu. Hein, les références 1 Pierre 2, 11. On vous les a données. Donc il est un étranger. Ça veut dire quand on est étranger quelque part, on n'est pas bien. On ne s'attache pas à ces choses qui sont là. On est de passage seulement. On est un étranger. Vous voyez, nous, on vient vous voir comme cela, mais nos cœurs ne s'attachent pas ici. On est de passage. Un étranger, c'est ça. Et le pèlerin doit rester étranger dans ce monde.
Mm-hmm.
Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens, de pèlerins, sont devenus des résidents. Des résidents. Ah, ils sont si bien ici-bas qu'ils ne pensent plus du tout au ciel. D'ailleurs, il y a même une doctrine dans certains livres un peu charismatiques où l'on commence à dénigrer même le ciel et on dit que le ciel, c'est sur la terre. Le royaume de Dieu va s'établir sur la terre et c'est sur la terre qu'il faut travailler et il dénigre même le ciel. Celui qui se moque du ciel ainsi aura des surprises un jour. Un résident, il est si bien. Si tu, Seigneur, venais aujourd'hui, dans quel état tu serais? Tu as tout bâti pour ce monde. Et quand il reviendra, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as tout bâti, tout va très bien. Naturellement, tu ne veux pas partir. Tu es si bien ici. Tu es si bien. Ça ne t'intéresse pas de partir. Mais quand on est étranger, on dit, Seigneur, même si tu reviens maintenant, allez, pour moi, ma patrie n'est pas ici-bas, c'est là-haut. Notre cité à nous est dans les cieux. Et tous les patriarches, tous les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament avaient cette vision-là.
Amen.
Comme des étrangers.
Mm-hmm.
Ils soupiraient après cette cité céleste.
Oui.
Soupires-tu après cette cité céleste?
Oui.
Soupires-tu après cette cité où nous verrons Jésus? Nous serons avec les patriarches. Nous parlerons avec Daniel, avec Abraham, avec Joseph.
David.
Nous, David et tout le monde. Mm-hmm. Les anges et les archanges, les séraphins. Mm-hmm. Quelle gloire nous attend. Alléluia.
Alléluia.
Vous n'aurez jamais de tout cela ici-bas.
Jamais, c'est vrai.
Si certains pèlerins sont des résidents, il y en a d'autres, ce sont des touristes. Vous avez remarqué un touriste qui fait, il est toujours avec son appareil de photo. Alors il regarde toujours là où il y a des bonnes choses. Là, il voit une bonne chose. C'est bien, c'est bien. Alors, il se balade un petit peu, il va. Alors, et puis il achète des petits souvenirs, il fait des petites choses comme ça. Mais en faisant tout ça, son cœur s'attache à ça.
Ah oui, c'est ça.
Ah, il dit, oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, c'est beau. C'est tellement beau qu'il ne veut plus partir. Il ne veut plus partir. Et c'est là le danger. Amen.
C'est ça.
Le Seigneur n'a pas dit qu'on était des touristes ici-bas. Sur cette terre, on est des pèlerins. Notre cœur ne doit pas s'y attacher. Car il y a un danger mortel. Les valeurs de ce monde ne sont pas nos valeurs. Les plaisirs de ce monde ne sont pas nos plaisirs. Nous avons d'autres joies, d'autres plaisirs éternels à la droite de Dieu. Amen. Un étranger. Troisième borne. Le pèlerin a soif de vivre une vie sainte. 1 Pierre 14, 16. Il a soif de vivre une vie sainte. Juste la référence encore, 1 Pierre 1, 14 à 16. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen.
Oui.
Et puis alors le passage après, qu'on a lu tout à l'heure, au verset 12, bien, verset 10, 11, 11 déjà. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Oui. Voyez-vous ici, quel est le message? Il veut dire, vous pèlerins, vous avez à avoir soif de vivre une vie sainte. Amen. Une vie sainte. Et pourquoi nous devons vivre une vie sainte? Parce que notre Dieu est saint. Aujourd'hui, entendez-vous parler souvent que Dieu est un Dieu saint, que le Dieu que nous servons est un Dieu saint? On n'en entend presque plus parler. Par contre, ce qu'on entend, c'est quoi? Dieu est amour. Ah ben ça, on nous le rabâche du matin au soir. Et comme il est amour, quelle est la conclusion derrière tout ça? Puisqu'il est amour, il sera gentil avec moi. Même si je fais des petites choses qui ne sont pas très bien, on peut discuter avec lui. On peut discuter. On dit, tu vois, Dieu, tu, comme tu es amour, tu me comprends. Tu me comprends quand même. Il serait même à taper sur l'épaule du Seigneur. Mais, Dieu est amour, ça veut dire que c'est le bon Dieu. On peut faire n'importe quoi et on ne sera pas jugé. Voilà la conception que beaucoup de chrétiens ont de Dieu. L'apôtre Pierre ne voit pas la même chose, n'est-ce pas vrai? Vous serez saints, car je suis saint. Nous devons marcher dans la sainteté parce que Dieu est saint. C'est pas mon idée à moi. C'est Dieu, parce que Dieu est saint. Et c'est lorsqu'on est saint, qu'on marche dans la sainteté, qu'on est le plus heureux. Écoutez-moi bien. C'est la personne qui marche dans la sainteté qui est la plus joyeuse, la plus heureuse, la plus épanouie. Beaucoup de gens pensent que marcher dans la sainteté, c'est d'avoir une triste mine. Ça n'a rien à voir avec la vraie sainteté divine. Celui qui marche dans la sainteté, c'est la personne la plus heureuse, la plus joyeuse, la plus libre, la plus épanouie. Alléluia. Plus tu marcheras dans la sainteté, plus tu seras satisfait au plus profond de toi-même. Si tu es malheureux, c'est parce que tu ne marches pas dans la sainteté. Le péché accable, le péché déforme, le péché détruit. Le péché rend malheureux. Mais celui qui marche dans la sainteté est heureux. Amen.
Amen.
Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que son ton cœur désire. Psaume 37, 4. Quand on tourne les regards vers lui,
on est rayonnant.
Les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Psaume 34, 6. N'est-ce pas merveilleux? Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Psaume 16, 11. N'est-ce pas merveilleux? Un chrétien, un pèlerin qui aime le Seigneur, on n'a pas besoin de lui dire « Oh, tu dois abandonner ceci, tu dois abandonner cela. Oh, encore ça, encore ça. » Ça, c'est un drôle de pèlerin, celui-là. C'est un drôle de pèlerin. Le vrai pèlerin, il dit « Mais j'ai plus besoin de tout ça. J'ai trouvé quelque chose de mieux. J'ai le ciel dans mon cœur. Je n'ai pas besoin de l'enfer, de cette terre dans mon cœur. J'ai quelque chose de mieux. Amen.
Amen.
Et si nous faisons encore des compromis, si la convoitise encore nous guette, c'est parce que notre cœur est encore partagé. Mais tu es un pèlerin, le Seigneur te dit, tu es un pèlerin. Ce sont aux plaisirs célestes que tu dois t'attacher, et non pas aux plaisirs terrestres, qui un jour te conduiront dans l'impasse. Non seulement dans l'impasse, mais dans de grandes difficultés. Réjouis-toi dans le Seigneur. Troisième borne, vous l'avez noté ? Le pèlerin a soif de vivre une vie sainte, a soif. C'est pas, encore, qu'est-ce que je dois encore ça, encore. Non, il a soif, il désire, il en a envie, c'est la nature de Dieu en lui, l'Esprit
Amen.
Saint.
Amen.
N'oublions pas que l'Esprit de Dieu est un Esprit Saint. Et nous donne de saints désirs, de sainte joie. Alléluia.
Oui.
N'est-ce pas merveilleux? Personne ne nous force de suivre le Seigneur et de marcher dans la sainteté. Personne ne me force. Mais c'est moi qui le désire. C'est moi qui le veux. Est-ce que tu le veux, toi? Ou est-ce qu'on doit toujours te tirer par la manche encore? Tu ne dois pas faire ça. Encore. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça le christianisme? Ça, ce n'est pas le christianisme. Ça, c'est un véritable esclavage. Ce n'est pas là, être chrétien. Le chrétien dit, loin de moi les plaisirs de ce monde, j'ai trouvé quelque chose de mieux. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Amen.
Amen.
Voilà pourquoi nous pourrons faire envie aux autres. Mais autrement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait envie? Au contraire, beaucoup de gens du monde nous disent, si être chrétien c'est être
c'est
comme
ça.
Toi, eh bien au revoir, hein. Au revoir. Si être chrétien, c'est être comme toi, eh bien, je n'en veux pas. Je veux même pas devenir chrétien. Quelle tragédie. Vous êtes d'accord avec
c'est
moi
vrai,
quelle,
vrai.
Tragédie. Quelle tragédie. Quelle tragédie. Par notre vie, nous éloignons des âmes du Seigneur qui iront en enfer. Nous avons une responsabilité. Nous devons faire envie.
Oui.
On n'est pas parfait. Moi, je suis pas parfait.
Non.
Mais que les autres doivent voir en nous cette sincérité de notre amour pour le Seigneur et que nous désirons marcher dans la lumière et la pureté. N'est-ce pas vrai?
Amen.
Et cela
Amen.
Est suffisant pour
Amen.
Que l'autre soit touché, convaincu.
Oui.
Il y a tant d'hypocrites dans ce monde que lorsqu'ils voient quelqu'un de sincère, d'intègre, ils sont touchés.
C'est vrai.
Amen.
C'est vrai.
Vous voulez la quatrième borne? Là, en quatrième, hein, il est présent là, et t'en rajouter une là, je vois. La quatrième borne, le pèlerin, un témoignage de vie transformé. 1 Pierre 2:12, il est dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Hein, ça rejoint un peu ce que je vous ai dit avant, mais c'est une autre borne importante. Le pèlerin a un témoignage de vie transformée. Il n'est pas parfait, mais il est transformé. Autrefois j'étais aveugle, maintenant je vois. Autrefois j'étais un idolâtre, maintenant l'idolâtrie s'est terminée. Autrefois j'étais menteur, maintenant je ne mens plus. Autrefois j'étais violent, maintenant c'est terminé. Autrefois je volais, maintenant c'est terminé. Il y a un témoignage. Si quelqu'un est en Christ, il est une
nouvelle
créature.
Amen.
Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Il a un témoignage de vie transformée. Est-ce que tu peux dire, voici ce que j'étais avant et voici ce que je suis maintenant? Tu n'as pas besoin de faire des discours. Simplement dis ta transformation. Dis-la. Et qu'il la voit aussi. Ce ne sont pas seulement des paroles, mais qu'il voit que tu as changé. Cinquième borne. Il faut que je vous donne les bornes rapidement. Cinquième borne. Ouh là là. On la trouve toujours ici dans 1 Pierre 2:12. Qu'est-ce qu'il est dit? Ayez au milieu d'eux des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous
calomnient,
comme si vous étiez des malfaiteurs. Ouh là. Ils remarquent vos bonnes œuvres. Calomnie. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est la cinquième borne, ça. Le pèlerin est calomnié et rejeté dans ce monde. Pourquoi? parce qu'il ne vit pas selon les principes de ce monde. Vous êtes d'accord avec moi? On ne vit pas comme le monde. Hein? Le monde se réjouit de certaines choses et nous, on ne se réjouit pas. Dans le monde, le mal est bien et le bien est mal, n'est-ce pas vrai? On en est là. Donc le pèlerin est calomnié et rejeté dans ce monde. Là même, on vous calomnie, c'est des calomnies, donc des choses fausses qu'on dira sur vous. Mes amis, si tu es vraiment un vrai pèlerin, on te calomniera. On te dira des mauvaises choses. Mais ne te décourage pas. On a fait cela au Seigneur. Jésus lui-même a dit, ils m'ont haï. Et c'est parce qu'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. S'ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Le disciple n'est pas plus que son maître. Le pèlerin est calomnié. Et pourtant, il n'a rien fait de mal. Il est bien. Vous voyez la calomnie, la méchanceté. Parce qu'on n'est pas d'accord avec vous. Parce que votre vie les dérange. Ah, c'est ça aussi. Ah, monsieur ou madame n'est pas content parce que votre vie dérange sa vie, met en lumière des choses qui ne sont pas bien dans sa vie. Et ça, on n'aime pas ça. On n'aime pas la personne. Toi, je ne peux pas te voir. Pourquoi tu ne peux pas me voir? Parce que tu ne marches pas dans la lumière. Tu ne marches pas dans la vérité et tu pratiques des choses que la Bible condamne et que toi, tu condamnes aussi en tant que pèlerin. Amen.
Amen.
On en est où?
Sixième
borne. On avance vite, hein, vous voyez, hein, on court, hein, là. On court, c'est le pèlerin. Il doit avancer, il ne doit pas s'arrêter.
Oui, c'est bien.
Il doit aller de l'avant. Le pèlerin, qu'est-ce qu'on trouve encore? Le pèlerin attend chaque jour le retour de son maître, qui est imminent. Philippiens 3:20, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons notre comme Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ, qui transformera notre corps d'humiliation en un corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Voyez-vous ici, le ciel est en rapport avec le retour du Seigneur. Le pèlerin, il n'attend qu'une chose, le vrai pèlerin. Seigneur, viens bientôt, Seigneur. Son cœur est au ciel et il veut la. Le Seigneur a promis qu'il allait revenir nous chercher. Jean 14, 1 à 3, vous connaissez ce passage, je n'ai pas besoin de le redire. Croyez en Dieu, croyez en moi, ne vous inquiétez pas. Je m'en vais vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de maisons, beaucoup de demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Vous voyez comme le Seigneur, la vérité. Je ne vous raconte pas d'histoire, il dit, c'est pas des histoires, mais je m'en vais. Je vais vous préparer une place. Et quand je l'aurai préparé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Alléluia. Le pèlerin, il a envie d'être avec son maître, avec son sauveur, avec son berger, avec son rédempteur. Amen.
Amen.
Moi, c'est mon seul désir, ma seule prière, être avec lui, être avec lui. Celui qui m'a aimé et qui s'est sacrifié pour moi. Il l'a fait aussi pour toi. Et il veut t'avoir dans son ciel de gloire. Il t'a préparé une place. Si un jour tu n'y es pas, ce ne sera pas de sa faute. Il t'avait préparé une place, mais tu n'as pas répondu présent au rendez-vous. Le pèlerin attend le retour du Seigneur. Et encore maintenant, dans certains livres chrétiens qui se vendent au milieu de nous, beaucoup se moquent même du retour de Jésus. On se moque de cela. On veut établir le royaume de Dieu. On ne veut pas du retour de Jésus. Et il parle de l'enlèvement comme une fuite. Voilà comme on parle dans certains livres chrétiens. De l'enlèvement comme d'une fuite. N'est-ce pas tragique? N'est-ce pas terrible? Alors je termine maintenant la septième borne. Septième borne. Le pèlerin aura un corps glorifié et transformé, semblable à celui de Jésus. Philippiens 2:21. Amen. Quand il reviendra, le Seigneur va nous transformer et ce corps mortel sera transformé en un corps glorieux, comme celui de Jésus. Nous serons semblables à lui. Quelle destinée extraordinaire! Alléluia! Nous le verrons en face et nos corps seront transformés. Nous serons semblables à Jésus. Nous serons comme des anges. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Moi, je préfère aller là-haut. Oh. Qu'est-ce qu'il y a comme espérance ici, sur ce monde? Rien du tout. Le néant! Le néant!
Bien sûr.
Le pèlerin a cette glorieuse espérance. Et les corps malades, les corps fatigués, les corps seront tous transformés.
Alléluia! Amen.
La résurrection va nous transformer complètement. Mm-hmm. Et nous serons pour toujours vivants, saints devant le Seigneur. Mm-hmm. Que Amen. Dieu soit béni.
Amen.
Amen. Passez bien ces bornes.
Amen.
Ne sautez pas ces bornes. Parce qu'à la fin de ces bornes, nous entrons dans la gloire. Mm-hmm. Vous ne pouvez pas éviter certaines bornes. Vous devez les passer toutes les unes après les autres. Mm-hmm. Et le Seigneur vous attend là-haut. Que Dieu soit béni.
Amen.
Soyons donc des pèlerins. Chrétiens, n'oublie pas que tu es un pèlerin sur cette terre.
Oui.
Amen.
Amen. Amen. Juste une confirmation du message que Samuel vient de donner. Il ne me dit jamais sur quoi il va prêcher. Et moi, je ne lui dis pas non plus que je reçois du Seigneur, que parce qu'on s'influencerait l'un l'autre. Et là, le Seigneur m'a donné vraiment une belle confirmation, parce que voici les paroles qu'il nous adresse. Il dit, le Seigneur dit, cherchez à être renouvelé dans votre esprit et dans votre intelligence, afin de marcher en nouveauté de vie. Revêtez-vous de ma justice, de ma droiture et de ma sainteté. Marchez comme des enfants de lumière. Renoncez aux mensonges, à la colère, aux mauvaises paroles, afin de ne pas attrister mon Saint-Esprit. Soyez bons les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement. Éloignez de vos cœurs toute amertume, de votre bouche toute parole grossière, tout propos léger et insensé. Marchez comme des enfants de lumière et cherchez à vous distinguer en menant une vie qui m'est agréable et qui me glorifie. Soyez au contraire remplis de mon esprit. Et en ce temps corrompu de la fin des temps, je vous exhorte à faire tous vos efforts afin de ne plus marcher comme le monde, qui marche selon la vanité de leurs pensées, étant ignorant de la vie qui se trouve en moi, ayant l'intelligence obscurcie et ayant endurci leur cœur à mon égard. Mais vous, mon peuple, j'attends de vous à ce que vous vous distinguiez d'eux.
Merci.
Alléluia, Seigneur.
Nous allons tous nous lever.
Alléluia,
et
Seigneur.
Terminer dans la prière et l'action de grâce.
Alléluia, Seigneur.
Et nous donner au Seigneur et lui dire, Seigneur, tu m'as parlé ce matin. Je veux obéir à ta parole. Je veux, Seigneur, changer ma façon de vivre. Je veux vraiment avoir l'esprit d'un pèlerin. J'ai fait de ma vie une résidence ici-bas, où je suis un touriste qui vadrouille à gauche et à droite, et qui s'attache aux choses de ce monde et aux plaisirs de ce monde. Mais je veux être un vrai pèlerin, Seigneur, et m'attacher au bien céleste, qui demeure éternellement. Car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Seigneur, fais que nous puissions, chacun d'entre nous, nous attacher aux choses invisibles et éternelles. Car les choses de ce monde, un jour, subiront le jugement divin. Garde-nous, Seigneur, de nous attacher aux choses de la terre, mais de nous affectionner aux choses du ciel. Dès maintenant et à jamais, prends nos vies, façonne-nous et transforme-nous à ton image. Béni sois-tu, Seigneur. À ton nom encore soit louange, honneur et gloire. À ton nom seul soit la gloire, dès maintenant et à jamais. Amen.
Amen. Amen. Amen.
Que Dieu vous bénisse.
Alléluia.